Et j'aimerais tout d'abord citer en exergue donner en exergue deux citations. La première tirée d'Aveu non avenu, que vous connaissez, que toutes et tous vous connaissez. Il y a des phrases qui ne sont pas faites pour être comprises, mais plutôt senties. La deuxième citation est de Nathanaël, elle-même, dans Soto l'imaginer, je crois qu'il est ici. J'ouvre, mais pour ouvrir, il faut arracher. La folie mal adressée, en deçà de tout arraisonnement, de toute appropriation abusive, de toute filiation, toujours homogénéisante et totalitaire, comment délire ? C'est-à-dire lire autrement, un corpus sans y porter atteinte, sans l'entamer. Comment le tenir en respect, ce corps de l'être, garder sa promesse inentamée, augurale de tous les possibles. L'ouvrage de Nathalie Stevens, dite Nathanaël, L'absence au lieu, Claude Cain et le livre Inouvert, élabore une éthique de la lecture en ce qu'il entend comprendre l'itinéraire de Cain, l'appréhender sans le saisir, sans s'en emparer, sans le déporter dans sa propre orbite de création, en le préservant dans la distance, en l'accompagnant. Après tant de réinvestissement, comment rendre Cain à sa singularité, à son exception ? C'est une entreprise dont on ne revient pas à la lettre, on n'en revient pas. Il en reste des chutes, des ruines, ce que nous sommes, nous souffle Nathanaël, des restes qui repassent par la bande, le trajet en son errance. Autre façon de respecter, puisque étymologiquement, depuis le préfixe « re », il s'agit de regarder en retournant en arrière, en répétant. Ces 13 mots témoins, en fin d'essai, chibolette d'une quête, d'une errance à propos d'un seuil, le bord de l'œuvre de Claude Cain, sont les chutes d'une pensée trajet, je cite Nathanaël, « je tombe sur le chantier d'une pensée en démolition ». La 13e lettre de l'alphabet, le M, la lettre absente, récurrente dans l'ouvrage depuis le mot « faille », je ne sais pas comment le faire entendre, et son reste, l'une des signatures de Cain, en outre, est par ailleurs la première lettre dans l'alphabet hébreu du mot « met », c'est-à-dire « mort ». Car déjà je traîne après moi trop de cadavres, Cain cité par Nathanaël dans le carnet de délibération. Il faudra lire aussi la lettre M comme un accident du rythme, perdu en son vocable, une allitération. Le chiffre 13, sur le plan symbolique, est source de déséquilibre, à la suite donc du chiffre 12, qui lui traduit l'accomplissement, l'achèvement d'un cycle. Il exprime de fait l'évolution fatale vers la mort, vers l'achèvement d'une puissance et d'un accomplissement. Ainsi, tous ces restes ruines témoignent-ils au mieux de ce que nous sommes et de l'aventure invisible qu'a menée Cain, elle qui cherchait à se délester du reste du corps. En deux temps, trait et retrait, le livre aura été titré, lapsus. En deux temps, signé. L'absence au lieu, l'ambivalence de l'expression joint et disjoint du même tour, le rapport esquissé à l'espace perdu, chassé, égaré, hanté, dans la tension directionnelle de la préposition « à », mouvement du rapport même, ce double de la locution conjonctive, anticipant le sous-titre placé entre parenthèses, Claude Cain et le livre Inouvert, redoublant la signature en deux temps, deux strates, Nathalie Stevens, Nathanaël. Au cœur de la parenthèse, l'auteur, je vais vous faire entendre le « s » d'auteur, confronté à son impossibilité même, réinscrit l'origine, quoique déviée, dissimulée, signant la force des commencements, des seuils. Doublement signé, cet opus dissémine sa force de frappe, son potentiel signifiant, préparant le lecteur à la double strate des significations, dédoublant l'objet de la rencontre, spectralisant celui-ci, distinguant entre l'individu Cain et l'œuvre inentamée, lorgnée. En deux temps l'opus, deux dates, car deux langues. En 2009, la version anglaise de L'absence au lieu paraît, Absence Whereas, Claude Cain and the Unopened Book, version, non traduction. Tant le passage en langue enregistre du reste et laisse apparaître ce que Nathanaël nomme le défaut de réciprocité. Claude Cain aussi aura écrit entre français et anglais, acquérant la langue de Shakespeare dès l'adolescence alors qu'elle est pensionnaire d'une institution anglaise. traduisant ensuite le premier volume des études de psychologie sociale, La femme dans la société, d'Havelock Ellis, en 1929. Premier temps, il y en aura trois, liminaire des parenthèses, ce qui échappe aux bibliothèques. D'emblée, Cain aura ainsi figuré entre parenthèses, dès la vitrine de l'ouvrage, puisque le livre n'aura pas été ouvert, mais à la fin. Et qu'est-ce qu'un livre ouvert à la fin? Mais frôlé du regard, approché, apprivoisé, amadoué, caressé, mais non forcé. Cependant, on le sait, les parenthèses contenant la digression, l'enfermant, sont ambivalentes. Elles font passer par la bande le détail essentiel, la marge incontournable. Elles ménagent le contretemps, le déport dans la filiation, le soubassement généalogique porté à oubli. Inscrivent ce processus anamnésique par lequel la rencontre aura eu lieu, mais dans son effondrement même. Car toujours l'anamnèse compose avec son échec et la relation, le rapport à l'autre désiré, attendu, sa défaite. Je cite Nathanaël, « Du relationnel, je retiens surtout la défaite, de la liaison, la partance, de la correspondance, l'envolée, de l'offrande, la main vide, vidée. » Sans la faille originelle, pas d'aventure de l'écriture, pas d'aventure intérieure, invisible. Il importe de délaisser toute assise, et d'abord dans le langage. L'entregenre est l'un des modes de la venue du livre. Il faudra entériner ce geste fou, ce geste d'émis, laisser venir le livre. Qu'est-ce qu'un livre qui vient à vous? C'est d'abord rompre avec le classement et la taxinomie propres à ce que l'on nomme une bibliothèque. C'est aussi récuser le lieu comme étanchéité, laisser advenir la porosité. Un ordre échappant à la concertation, la décision calculée, advient, qui sépare entre le commun et le livre qui vient à moi. Je cite Nathanaël. La constitution de l'étagère visible depuis ma table de travail est déterminante. Il y a ces livres dont la sélection est déterminée par une considération affective, l'attachement à l'auteur, à une période de ma vie, à un lieu découvert, une sensibilité, sans pour cela négliger l'importance du texte dans ma trajectoire artistique, les pulsions qui la formulent. Deuil, mélancolie, langueur, langues et langueurs, désir, perversité se trouvent juxtaposés, sans raisonnement autre que celui capricieux et réfléchi que je leur accorde. Il y a ceux qui échappent, ceux qui restent en deçà, au-delà, à côté. Le cahier d'architecture signé Renzo Piano, vierge de toute trace, et la somme des écrits. Somme qui dérange les us, les normes, les conventions, qui déplace les lignes. Celle qui fait migrer l'idée même du livre, de totalité close, achevée. Je cite, « À l'extrémité gauche, le geste textuel qui entame le mouvement de la collection entière, le livre où je veux en venir et qui vient à moi, introduire perturbations et récriminations dans mon lieu de travail, fatidique rappel de la disjoncture et de la disparition, de l'effacement, ce mastodonte qu'est le tome écrit de Claude Cain, photographe, mais auteur également, et que depuis qu'il me poursuit, demeure inouvert. Du moins jusqu'au moment où j'ai accepté d'en parler, d'ouvrir, ce qui demeurait pour moi fermé, c'est-à-dire incontournable et invivable, mais combien impératif. Composé savant, forgé par Cuvier, le terme mastodonte fait sens. Frappé au sceau de l'ambiguïté, il associe deux motifs, la mamelle et la dent, étymologiquement, que la coutume n'associe pas ordinairement, et affiche l'étrangement qui le constitue. Qu'est-ce qu'un livre non signé? Non signé par l'auteur du livre, signé posthume, signé tout autant Le Perlier et Jean-Michel Place. Les volumes signés par Cain de son vivant sont Vue et Vision, Avenant Avenue, réalisés en collaboration avec Moore. Les paris sont ouverts, pamphlets, libellés, simples brochures, possèdent un statut spécifique à part. L'auteur est donc plusieurs, et ce dès l'origine, sans compter l'occultation de l'auteur par la photographe. La photographie qu'il a révélée au grand public aura quitté la sphère intime à laquelle elle était destinée, et éclipser l'œuvre scripturaire, pourtant grande œuvre voulue par Cain. Quel est donc cet objet paradoxal établi par un autre, et dont la signature entre migrance et imposture circule dérobée, et à laquelle Nathanaël rend sa juste place, entre deux parenthèses, deux lunules qui font rupture, qui rendent le référent à son autonomie, qui l'isole du reste de la syntaxe, grammaticale, pensée, musicale. Ce serait également rendre Cain à sa trajectoire circonstanciée, et lui donner pouvoir de se retirer, de faire retrait, de s'absenter. Deuxième temps, la faille de la famille, généalogie des faits. Il y va d'un M entre la faille et la famille. Au commencement, il y va de la famille et de la langue, et de la complexité de la filiation généalogique, doublée du rapport troublé à la judéité. Le piège de la descendance souffle Nathanaël dans le carnet de Somme, que je vous cite. Ce n'est que lorsque je le prononce à voix haute, ce nom de Cohen, les syllabes bien détachées, Cohen, au moment de confirmer le soi-disant nom de jeune fille de F, que le N incrusté me saute aux yeux, aux oreilles, même mes doigts enregistrent le contact avec ce son par un faible tressautement, je toussote, c'est bien le mot, ce qui est de très mauvais goût, ce toussotement nerveux au creux du front, le mot à perte de vue, un nom illimité qui me prend au piège, une fois de plus, de la descendance. J'en descends de ce Cohen affamé de mon haine, sur lequel j'insiste au point de la disparition, d'un néant voué à la perturbation. Cohen, le dévoué, le serviteur de Dieu. Ici, le piège de la descendance dont s'affranchit sans s'affranchir Nathanaël, Nathalie Stevens dit Nathanaël, le pseudonyme, puisque Nathanaël est encore, lui, le disciple aimé de Jésus, mode d'un retour à Dieu, donné par le Seigneur, don de Dieu. Écogidien, sur lesquels nous ne nous attarderons pas, pour manque de temps, en témoigne l'ouvrage « Je, Nathanaël », qui réfléchit cette frontière problématique du réel et de la fiction et incarne la ferveur du disciple et qui entretient fort ce lien, il me semble, avec les Jeux uraniens de Claude Quin. La blessure liée à la judéité, transcrite par Nathanaël sous le titre « L'injure », se voit surinvestie, compensée par la jeune Lucie Renée Schwab, lorsque celle-ci décide de reprendre le nom de son grand-père maternel, Léon Cahin, bibliothécaire et écrivain lui-même. Tout comme Nathanaël, il s'agit d'affirmer tout en retrait, de marquer en effaçant. Se délestant du patronyme Schwab, marqué lorsque l'on commence à publier, avec pour ascendant, je n'y reviens pas, un oncle, Marcel Schwab, et un père, Maurice, personnalité locale, directeur du Phare de la Loire, Cahin réinscrit malgré tout la généalogie littéraire par l'adoption de l'autre patronyme familial et réaffirme avec force la filiation juive. Je cite Cahin dans Confidence au miroir. Celui de mon père, alors en 1912, en 14-18, au début de l'entre-deux-guerres, estimé d'un assez large public, et de mon oncle, encore apprécié d'une élite, même parmi les générations montantes, j'y substituais n'importe quoi. Mais je signais de préférence du nom de jeune fille de ma grand-mère, nom qu'à vrai dire je tenais pour illustre, mais savais inconnu de tous ceux que je pourrais jamais espérer avoir pour ami ou lecteur. Entre parenthèses, je me trompais, il y eut une exception, Pierre Macorlan. L'auteur de La Cavalière Elsa se devait d'avoir lu La Tueuse de Léon Cahin. En tout cas, il approuva le choix de mon pseudonyme, devinant et me laissant deviner qu'il appréciait le paradoxal motif. Ferme la parenthèse, nom qui plus est incontestablement Youtre, et pour comble discrédité dans la Bible, dans la Genèse même. Et la judéité interroge le rapport à l'histoire, celui qui fait son trou au cœur de la photographie qui interpelle Nathanaël depuis sa table de travail, la hache de l'histoire qui frappe au centre du nom, celui que l'on s'est assigné mais qui nous entraîne malgré nous, qui nous conduit au cœur de la catastrophe, puis un pas au-delà, creusant la faille identitaire, délogeant définitivement le jeu de son fondement hégémonique, dispersant l'auteur aux quatre vents, creusant l'évidement au cœur même du mot, laissant à vif l'opération de césure, d'amputation, d'arrachement, laissant à vif, à vue, mais rappelant du même élan par le vide préservé, la faillite du M, son affreux effondrement et la hantise de l'origine, non barré, non raturé, mais évidé, épuisé, oblitéré. Ce serait peut-être ce M, ce trou témoin, cette 13e lettre de l'alphabet hébreu, l'initiale de Met, la mort, la filiation inachevée, déportée, contrariée de Cahin à Nathanaël. Et l'injure subie par la petite Lucie Schwab aux prises avec les remous de l'affaire Dreyfus, ricoche lorsque tout a été consommé, en un corps marqué au fer rouge, épuisé et rejoint son propre épuisement, déjudéisé, engageant la scission au cœur du vocable, ainsi que l'injure de Nathanaël le réalise. Les expulsions des Juifs d'Algérie, leur départ forcé, sont écho impossible. Quelques résonances à affronter, je cite le carnet de délibération, dans l'engagement d'un corps, à son corps défendant, corps rompu, en morceaux, inscrivant violences et frontières tout à la fois. Refus de la possibilité d'une mère, sollicitation d'une mère impossible, c'est dans le carnet de désaccord, nous souffle Nathanaël, et l'énigme de la présence d'une mère dont on ne sait que faire. Caïn s'est affronté à cette énigme de l'absence d'une mère, vis-à-vis de laquelle l'ambivalence des sentiments était de mise. Et le poids de l'hérédité qui hante de son fantôme évanescent, mais têtu, l'enfance de la fillette. Il s'agira précisément de se défaire de l'hérédité, de la filiation, et après la mise à l'épreuve du corps, se forger un genre unique, au-delà de toute filiation, de la maternité. L'énigme irréductible, je cite le Perlier, que représente Marie Courbebesse pour sa fille, tient à l'oxymoron en acte. Je cite Caïn, riant à travers ses pleurs. C'est dans la lettre à Charles-Henri Barbier. Nathanaël en écho, je la cite, folie du néant qui se creuse dans le corps. En forme de chiasme, présence-absence, absence-présence, de Caïn à Nathanaël, Nathanaël à Caïn, l'entrecroisement de l'une à l'autre aura été question de rythme, d'accompagnement, y compris musical, accord, harmonie, jusque dans le contrepoint, symétrie inversée, le droit au désastre, le droit au désordre, jusqu'au cœur des lignées. Troisième et dernier temps, l'injure des œuvres complètes ou le livre des faits. Un texte de correspondance. L'absence au lieu, Claude Caïn, et le livre inouvert est un jeu d'adresse. D'adresse en vue de la rencontre, laquelle peut advenir ou non au terme d'un procès de défaillance. Mais le lieu étant mis sous rature, son caractère spectral conditionne le rapport de à l'adresse même. Au départ, il y a l'impossibilité du livre même, en tant que totalité close, réclamant une cohésion, une cohérence après coup, posthume, réfutant la respiration de l'écrit, niant la dynamique même de la démarche d'écriture. En ce sens, Nathanaël s'inscrit en faux contre les archives, je la cite, « cet enterrement de la vie vivante ». Pour réfuter cette totalisation factice de l'ordre de l'imposture, Nathanaël use de cette formulation « l'injure des œuvres complètes ». Blessure verbale, dommage, outrage, ne reposant sur aucun fait précis, imputable, le terme, injure, dit assez la trahison de la prétendue exhaustivité, le dévoiement que sous-tend l'organisation de l'écrit en un volume structuré, ordonné, composé. L'étrangeté, le caractère unheimlich du volume des écrits, est pointé dans cet essai de correspondance qu'il faut aussi entendre selon les systèmes de correspondance dans les réseaux de transport, source d'embranchement potentiel. Chacun des 22 envois nourrit la faille originelle et intègre dans le lit de la pensée même les failles du discours, du raisonnement que l'on a coutume d'occulter au nom d'un raisonnement précisément dit sans faille, irréfutable. Ce déplacement des lignes aboutit dans le second temps de l'essai, le livre où je veux en venir, au livre en tant que, je cite Nathanaël, « voracité de mort repoussée » et dont l'inouverture garde toutes les promesses. C'est aussi à la défaite du livre que ce propos renvoie, ce que l'expression idiomatique convoquée en sous-main suggère. Mais où veux-tu en venir ? Attestant des tâtonnements féconds et ragés du cheminement d'écriture qui, je cite l'absence au lieu, « liminal, délimite et distant, distors et dément. » Avant d'aboutir au reste, placé en postlude, après la conférence initiale proprement dite, entre la folie et l'égarement, écho d'un livre défait, en fragments, érigé sur ses propres décombres. Le même désir de ne rien fixer, de préserver la mobilité de la cible, anime les deux écrivaines. La lettre en son adresse, en son envoi, entend incarner la promesse, et le désir, qui même dans sa défaite, favorise cependant la chance de l'œuvre, celle, je cite le carnet de délibération, constitué de feuilles arrachées. Épave, le seul livre visible, souffle encore Nathanaël dans le même carnet. Épave, titre de la première sous-section du chapitre 7 d'Aveu non avenu. C'est dès lors l'assomption de la note, du fragment, de la feuille détachée du scrapbook, du morceau, de la feuille volante. Depuis la ruine, la trace, le reliquat, les pièces du rhapsode, faire du livre erreur le livre de toutes les possibilités, souligne Nathanaël. C'est depuis le mode de l'épiphanie, de la formulation fulgurance, du trait de pensée et d'écriture, reconnaître le livre comme la seule possibilité du lieu qui l'incarne et qui l'émiette. Claude Caïn cité par Nathanaël. Écrivez-moi des lettres comme vous savez le faire, vivantes, émouvantes, l'illusion d'une présence. C'est enfin dépasser la littérature au nom du primat de l'existence et de son aventure invisible, laquelle requiert tous les modes d'investissement et de mobilisation possibles, et quitter enfin les bords du cadre imposé, convenu. Nathanaël souligne ce potentiel épiphanique et disséminant de l'écrit, envisagé sous le mode de la correspondance. Je la cite. Parce que justement, la chose appelée livre n'est pas une chose tangible, mais est plutôt de l'ordre de l'apparition, irréduisible au nombre de ses pages ou à l'épaisseur de sa reliure, à l'envergure de la presse, mais volatile et éparse. Pour conclure, ou pour ne pas conclure, je ne sais pas, chute ou ce qui reste. Reste, Gide, qui ricoche de l'une à l'autre, de l'autre à l'une, l'entre-genre dont il aura été trop peu dit, cette chute, cette élision du marqueur grammatical du féminin chez Nathanaël, la tension de l'écrit vers l'androgyna, un neutre actif et non pas passif chez Caïn, cet hermaphrodisme du mot, j'emprunte évidemment la formule à Nathanaël, qui ne cesse de tisser ses échos avec l'outre-genre de Caïn. Et puis ce mouvement fou, flou, du vécu à la fiction, de la pensée à l'imaginaire. Ce personnage d'un roman inachevé, Claude, je cite Nathanaël, limbique, ni tout à fait incarné, ni tout à fait dissous, mais épris. C'est dans le carnet de désaccord. Faisant écho au « je suis prise ». Alors il faut évidemment, le E terminal est à chaque fois en italique. « Je suis prise et prise, épuisée de l'absence au lieu ». Reste la photographie, évidemment. Celle qui aura au cœur de notre opus suscité le vertige, la perte, la photo comme gouffre, interrogée depuis ce qui fut à l'origine une conférence dans le séminaire de Martine Delvaux, intitulée « Photobiographie et sexuation ». Les autoportraits de Claude Caïn et de Nathanaël sont confrontés l'un à l'autre depuis la légende, l'auteur, avec un S, portant à visibilité la force rassemblante qui opère par indistinction, absorption, soustraction l'une de l'autre. Je cite Nathanaël, « En elle, je me ressemble ». La photo de Caïn accomplit un rapt, avale son spectateur, cannibalise le sujet et le spectateur. Elle informe sur l'effacement de ce qui est en train de se faire, le dérapage inéluctable du lieu à chaque nouvel emménagement. Il faudrait donc dire la photographie comme folie qui guette. Je cite la quatrième de couverture, « l'inlassable inferno d'un regard ». La photo comme aporie, je cite Nathanaël, « elle invite et répugne ». Suscite deux questionnements. Qu'est-ce que mon là et puis-je en revenir ? Elle annihile la force d'habitude, d'usure, le regard et gâche la chance de la rencontre. C'est précisément l'écho, l'écart attaché à la photographie entre le moi de la spectatrice et le moi de l'auteur représenté qui révèle l'absence qui accourt. Dès lors, le mouvement de dépropriation entamé par Nathanaël et sans cesse relancé par le rythme de la pensée en ses accidents nous incite à revenir peut-être à la singularité sans reste de l'artiste, à ce qu'elle était, je parle de Caïn bien sûr, avant de devenir le mythe qu'ils, elles, en ont fait. La rendre à l'événement, lequel n'a lieu qu'une fois, aux prises avec, je cite Nathanaël, la hantise qui frôle la démence. Laisser parler l'œuvre, la laisser venir dans la violence de sa sommation et trouver la forme depuis l'écho que celle-ci nous renvoie. Je cite le carnet de désaccord. Je mets en pratique une méthodologie de l'évidement, pas seulement à cause de ma mémoire défaillante, mais parce qu'il me faut faire de la place. En ce sens, je ne fais pas dans l'accumulation et l'archivage du savoir des objets ou des personnes, mais dans le drainage. Dans ce qui échappe, ou la tenue de l'échapper, gît la possibilité du chemin et de la rencontre, ou pas. Je vous remercie.